Horizon, le podcast de Lucans qui présente les 10 chantiers de l'avenant de la COJ 2021. Pour introduire ce podcast, nous retrouvons Rénal Lemay, directeur général de Lucans. Bonjour Monsieur Lemay, pourquoi ce choix d'un avenant plutôt qu'une nouvelle COJ ?
Cet avenant doit nous permettre de faire le lien entre deux COJ. Il nous permettra de boucler nos objectifs 2018-2020 et d'explorer de nouvelles pistes qui seront intégrées à la COJ 2022-2026. Ce choix de différer la COJ à 2022 permet de se caler sur le calendrier des branches qui négocieront et signeront leur COJ en 2023. Il sera ainsi possible d'intégrer dans la COJ des différentes branches les objectifs transversaux qui seront dans la COJ de Lucans.
Sur cet avenant de l'année 2021, quelles sont les grandes orientations poursuivies pour l'activité de Lucans ?
Alors cet avenant s'inscrit naturellement dans le cadre des orientations de notre COJ précédente, qu'il vient prolonger, mais il posera aussi les jalons pour la future COJ. Cet avenant devrait intégrer quelques éléments d'actualité, la possible future réforme des retraites ou la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale. Plus globalement, notre enjeu sur l'ensemble de nos activités sera de consolider nos offres de services avec des modalités d'approche toujours plus personnalisées et en lien avec les préoccupations des organismes.
Vous écoutez Horizon, le podcast de Lucans, sur les 10 chantiers pour demain. Bonjour Justine Farcy.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et m'expliquer ce que vous faites ici à Lucans ? Je crois qu'il n'y a pas de service dédié à la RSE en fait, c'est ça ?
Il n'y a pas de service dédié à la RSE. Moi, je suis directrice de la direction de l'accompagnement RH, donc l'accompagnement de l'ensemble des organismes de l'institution sur le développement de leur politique RH. Et en son sein, effectivement, la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, s'inscrit plus globalement dans la RSO. Alors là, en jargonne, pour l'expliquer, la démarche de RSO vise le déploiement dans les organismes de sécurité sociale d'une stratégie de gestion d'entreprise qui se veut durable, c'est-à-dire éthique, respectueuse des enjeux économiques et sociaux. Et à l'intérieur de la RSE vise l'axe interne, c'est-à-dire la politique qui est mise en place à l'intention des salariés dans le cadre de sa politique RH, d'organisation ou encore managériale. Alors sur le champ de la RSE, il y a trois accords structurants qui ont été négociés par Lucans. D'abord en 2012, un accord relatif à la santé et aux conditions de travail. En 2016, un accord relatif à la diversité et à l'égalité des chances. Et puis, en 2014, renouvelé en 2017, un accord relatif au travail à distance. Du coup, Lucans a doté l'institution d'un cadre conventionnel très complet sur la RSE.
Je reviens juste sur l'accord relatif à la diversité et à l'égalité des chances. Je crois que votre travail s'incarne ici dans trois axes, c'est ça ?
Oui, effectivement, l'accord a été structuré autour de trois axes. D'abord, le recrutement et l'insertion professionnelle. En second lieu, des actions en faveur de l'évolution professionnelle. Et enfin, la conciliation vie personnelle-professionnelle, effectivement, oui.
Alors, la COJ 2017-2020 a mis en place de nombreuses actions structurantes relevant de la RSE. Lesquelles, par exemple, si vous pouviez en citer deux ?
Je propose d'abord de mettre en évidence, à mi-chemin d'une politique santé et de la politique en faveur de la diversité, la politique handicap institutionnel que Lucans a pilotée en lien avec les caisses nationales. Alors là, on parle d'une démarche globale hein, qui se repose sur une convention de partenariat qui a été signée avec la GFIP dès 2016. Il faut savoir que cette politique, elle a mobilisé 1 300 000 euros sur 4 ans, ce qui a donné des leviers très importants en termes d'appui méthodologique et d'offre de services à l'intention des organismes locaux sur l'ensemble des champs de cette politique. On parle de démarches de pilotage, sur des champs de la formation, de la sensibilisation, l'aide au recrutement ou encore la prévention, la désinsertion professionnelle. À fin 2019, les résultats sont tangibles. On peut remarquer d'une part que le nombre de salariés à la sécurité sociale qui sont porteurs d'un handicap a progressé alors même que les effectifs sont tendanciellement en baisse. Donc ça, c'est un premier bon résultat. D'autre part, un autre élément de satisfaction, c'est que l'institution atteint désormais l'objectif légal de 6% d'emploi de salariés handicapés.
Alors pour rappel, la GFIP, vous en parliez tout à l'heure, c'est l'association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées.
Tout à fait.
Il y a donc un second exemple ?
Oui, je pense qu'un second exemple pourrait être évoqué en lien avec le développement du travail à distance sur le champ de la conciliation vie perso-pro et puis également sur la qualité de vie au travail. Alors, si le premier accord date depuis 2014, c'est clairement sous l'égide de la COGE qui se termine qu'il y a eu vraiment un développement du télétravail. Au démarrage de la COGE, nous avions 4400 télétravailleurs. En 2019, nous avons dépassé la barre des 11 000 télétravailleurs dans l'institution.
Et ces chiffres vont encore augmenter, a priori.
C'est évident avec la crise sanitaire qu'on va avoir un développement massif du télétravail.
Oui, je crois d'ailleurs que votre mobilisation concernant l'avenant 2020-2021 s'inscrit justement dans la continuité de ce sujet du télétravail.
Oui, absolument. Dans cette continuité, nous envisageons de piloter, au titre de la qualité de vie au travail, une démarche d'accompagnement des organismes locaux dans la transformation de leurs espaces de travail. On parle là de développement de tiers-lieux, c'est-à-dire d'espaces partagés où se mêlent travail, réseaux d'échanges et activités conviviales afin d'optimiser l'utilisation des locaux. On souhaite répondre là à l'aspiration des collaborateurs de pouvoir disposer de lieux de rencontre. Cette action serait évidemment menée en étroite collaboration avec l'ADIRA.
Alors, les tiers-lieux sont dans l'air du temps, le télétravail aussi, c'est un élément qui attire de plus en plus les futurs embauchés. Est-ce que ce sujet d'attractivité de l'institution à guider votre travail sur l'avenant ?
Nous avons effectivement identifié une action prioritaire en faveur de l'emploi des jeunes. Nous remarquons effectivement qu'il y a un recul de l'emploi des salariés de moins de 26 ans dans l'institution depuis 2014 et ça va donc du coup être une de nos priorités. L'enjeu à notre sens, c'est d'améliorer d'une part la connaissance des métiers dans l'institution, mais également l'attractivité de l'institution en tant que telle auprès des jeunes candidats. Et pour cela, nous allons mener au cours de l'avenant 2021 une action expérimentale visant un partenariat avec les plateformes de recrutement répandues auprès des jeunes afin qu'on ait une meilleure lisibilité.
Quelle plateforme par exemple ?
On peut parler de Welcome to the Jungle ou LinkOut qui sont deux interlocuteurs que nous avons commencé à approcher. Il y a un autre aspect important sur l'emploi des jeunes pour la période à venir, c'est la mobilisation des contrats aidés qui ont été créés tout récemment dans la suite de la crise par le gouvernement pour soutenir l'emploi des jeunes. Et donc, on aura un enjeu évidemment à mobiliser ces dispositifs.
Puis il y a aussi la question de l'alternance, j'imagine.
Absolument, en lien avec ces contrats aidés, oui.
D'accord. Alors, dans le domaine de l'emploi, toujours, vous avez une démarche, je crois, de non-discrimination ?
Oui, je pense que la sécurité sociale est engagée au titre de la non-discrimination. On est sur un champ de valeurs qui est commun avec la mission de service public que nous portons. Au titre de l'année 2021, nous allons chercher à labelliser notre politique de non-discrimination en matière de recrutement et d'emploi. L'objectif, c'est d'une part valoriser l'existant, parce que des organismes sont d'ores et déjà très actifs en la matière, mais c'est aussi pour ceux qui voudraient avoir une démarche proactive dans l'avenir, leur fournir un cadre pour pouvoir développer ce type de politique.
Merci beaucoup, Justine.
Merci à vous.
Ce podcast touche bientôt à sa fin et pour conclure, je voulais revenir avec Sébastien Barré, directeur délégué de Lucans sur la COGE écoulée. Sébastien, comment Lucans s'est-elle transformée en interne ?
Alors Lucans s'est transformée en interne déjà sous l'impulsion d'une politique RH dynamique, ambitieuse. On a travaillé sur des sujets essentiels qui sont l'égalité homme-femme, la conciliation vie familiale-vie professionnelle, notamment en développant le télétravail à travers un accord de 2018. Et ça se traduit dans une satisfaction des salariés sur leur emploi à Lucans, qui a progressé de 10% par rapport à l'enquête précédente que nous avions faite. La période a été marquée par un deuxième chantier majeur, c'était celui du déménagement. Donc ça a été un projet très impliquant pour l'ensemble des directions de Lucans, pour l'ensemble des salariés. Aujourd'hui, on est fiers du résultat. On est dans un bâtiment moderne, lumineux, sobre énergétiquement, qui favorise le travail collaboratif et le décloisonnement. Et je pense qu'un an après, on se l'est bien approprié. Troisième chantier que je pourrais évoquer, c'est celui du numérique. Là aussi, la période récente, elle a été marquée par l'appropriation qu'on a tous fait d'outils numériques visant à la tenue de réunions en interne, à distance avec les partenaires. Et c'était un fait marquant de la période. Et la preuve qu'on se l'est bien approprié, c'est que nous sommes aujourd'hui dans le constat que la bascule dans le confinement, elle s'est faite de façon relativement rapide et qu'on a retrouvé très vite nos habitudes de travail et notre niveau de performance.
Trois grands chantiers alors, et maintenant, quelle perspective vous pourriez donner à l'aune de la nouvelle COGE ?
À l'aune de la nouvelle COGE sur les fonctionnements internes, je pense que ce qui va marquer la période, ça va être la capitalisation qu'on va faire de la période que nous traversons actuellement, de crise sanitaire. Les modes de management ont évolué, le personnel a beaucoup plus télétravaillé, on a encore progressé dans le maniement des outils de collaboration et de travail à distance. Donc on a pris de l'avance sur ces sujets-là, et je pense que l'enjeu de la prochaine période, c'est de conserver cette avance.
Ce n'est pas tous les jours qu'on a un micro sous la bouche, alors qu'est-ce que vous souhaiteriez dire pour profiter de cette occasion ?
Je voudrais dire en guise de conclusion que je remercie l'ensemble des salariés de Lucens pour le travail accompli sur ces dernières années, pour leur capacité d'adaptation également. On a été collectivement au rendez-vous des objectifs que nous étions fixés et j'ai aucun doute sur le fait qu'on sera dans la même dynamique dans les prochaines années.
Merci d'avoir écouté Horizon, le podcast de Lucens sur les 10 chantiers pour demain.